Bonjour. Je me suis fait inspirer pour ce petit message par plusieurs textes. Je vous en donne un. Jérémie 29, 13. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même. Oui. On l'a déjà entendu ici. Je pense que le Seigneur nous a déjà travaillé à travers ce texte, donc c'est bien de reprendre aussi des passages, ou surtout un texte donc, qui nous interpelle. Deuxièmement, je me suis inspiré aussi par un mot que j'ai reçu par le biais d'Internet, où ce frère pasteur parlait du fait que nous devons être des fils de Jacob, comme Joseph, hein, c'est un fils de Jacob, et que souvent nous n'osons pas aller plus loin avec Dieu, c'est-à-dire nous baissons les bras. Et nous passons à côté de bénédiction parce qu'on se fatigue. Il y a quelque chose qui m'a travaillé là-dedans, ça parlait de la lassitude du pionnier. Alors je me suis ressenti là-dedans vraiment, la lassitude du pionnier, qu'il faut déposer toutes nos lassitudes, nos fatigues, qu'il faut déposer au pied de la croix de Jésus. Parce que le Seigneur veut nous renouveler. Alors là, c'est intéressant, hein, c'est deux feuilles, enfin une feuille et demie. Fils de Jacob, demandez à nouveau. Hein? Troisième inspiration pour ce message, puis je vais arriver à la fin du message, ou au début au moins, bientôt. C'est-à-dire, on a fait une petite visite en Espagne le week-end passé, parce que nous avons la famille là-bas, et donc nous avons rencontré de nouveau dans nos petits-enfants, et... ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que ce sont des jumeaux, les vrais jumeaux. Et à 13 mois, on a toujours du mal à les séparer, à les différencier. Je vous en ai déjà parlé, alors excusez-moi de revenir là-dessus. Mais cette fois-ci, il y avait une petite différence. Un des jumeaux avait un petit bobo, là-haut, sous le front. Alors pendant 3 jours, on a pu savoir la différence. Mais le problème, c'est que des bobos se guérissent. Et le quatrième jour, il n'y avait presque plus de bobos. Enfin, c'était une petite gratinure. Hein. Il s'était heurté contre quelque chose. Et puis, on s'est dit, tiens, enfin, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on a remarqué que l'autre, donc là, je parlais quand même d'Oliver, le premier qui avait des bobos. Et puis l'autre, donc Thomas, heureusement, Seigneur, il commence à manifester un autre caractère. C'est-à-dire, ils sont tous les deux très, très doux, très tranquilles, n'est-ce pas? Des vrais Britanniques, on dirait, hein? Avec un profil espagnol. Donc, il y a quand même une combinaison quelque part. Et puis, lui, dans le deuxième, Thomas, mais il commence à réclamer. Il devient tout rouge. Il commence à crier à tue-tête. Il veut absolument avoir, je sais pas, de quoi boire, manger, etc. Tandis que le premier, il reste tranquille, il ne bouge pas. Et finalement, c'est comme ça qu'on connaît la différence. Hein? Le deuxième, il crie à fond. Et en fait, en criant comme ça, il y a toute une veine ici qui grossit, vous savez. C'est comme ça, Annette? Ah oui, tu as eu ça aussi? Donc, je me suis heureusement, il y a une différence. Donc, c'est parce que je voulais vous parler un peu de ce cri ardent. Je l'ai entendu tout à l'heure dans la prière. Ce cri de vouloir avoir plus, de vouloir aller plus loin avec Dieu. D'accord? Donc, je vous amène là sur un texte que vous connaissez, je pense. Genèse chapitre 32. Jacob. Hein? Donc, la lutte de Jacob avec Dieu. D'accord? Parce qu'en fait, à titre d'introduction, Dieu, c'est un Dieu qui est passionné. Hein? Et il est tellement jaloux, il est tellement zélé pour avoir une relation avec nous qu'il s'est permis de faire toutes sortes d'excès pour arriver jusque-là. Déjà, pour donner son fils. Quelle générosité de sa part. Mais enfin, c'était dans le but d'avoir d'autres fils et filles comme toi et moi. Donc, quelque part, il a fait toutes ces démarches et il continue à en faire dans nos vies personnelles parce qu'il veut qu'on arrive quand même à vivre une intimité avec lui. Et nous, c'est le contraire. Hein. On reste sur nos petits train-train de vie. Et on ne sait pas comment lui accorder plus de temps parce qu'on a déjà pris, vous savez, la vie est tellement remplie, surtout à la rentrée, alors comment accorder plus de temps à Dieu? Et déjà, on a envahi, un peu comme Jacob, par toutes sortes de soucis et de peurs. Donc voilà, nous retrouvons Jacob ici en route pour la terre promise, Canaan, hein? Où son père lui a interdit de se marier avec une femme de là-bas, parce qu'il fallait qu'il trouve quand même une femme de chez lui. Donc là, il avait trouvé deux femmes chez son tonton Laban. Hein, c'est dans le chapitre précédent. Hein, je fais un petit récapitulatif là pour vous. Et maintenant, il est en route de nouveau, après 14 ans donc chez Laban, et après 20 ans aussi de séparation avec son frère Ésaü. 20 ans, je pense, de séparation. Vous savez, c'était des frères ennemis, Jacob et Ésaü. Des jumeaux, justement. Voilà. Seigneur, que ce ne soit pas le cas pour nos jumeaux en Espagne. Amen. Et puis, on va peut-être lire le passage à partir du verset 25. Jacob, dans Genèse 32, 25. Jacob resta seul, alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Je pense qu'il ne voulait pas se dévoiler son identité. Hein, donc là, il était couvert par l'obscurité de la nuit. « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses, » dit Jacob. L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Peniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passait Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Amen. Donc Jacob est en route parce qu'il veut gagner quand même son pays d'origine. Avec ses femmes et ses enfants. Mais il cherchait surtout donc une réconciliation avec son frère. Ça faisait 20 ans qu'ils se sont séparés, dans un contexte quand même de conflit familial épouvantable, avec aussi quand même le concours des deux parents derrière. Donc il y avait un échec total au niveau familial dans la génération précédente. Et il se disait, il voulait à tout prix trouver cette réconciliation en sachant quand même qu'Ésaü en voulait à lui, qu'il se sent séparé dans les conditions les plus affreuses qu'on peut imaginer. Ésaü disait même à un moment donné qu'il avait été trompé ou volé doublement par son frère Jacob. C'était en 27, verset 26, non, 36. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on lui a donné le nom de Jacob, qu'il m'a supplanté deux fois? Vous savez, la première fois, lorsqu'ils sont sortis du sein de la maman, hein, Jacob, il a tiré sur le talon de son frère pour le supplanter. Donc, il est arrivé en premier, à l'accouchement, il a eu le droit à l'aînesse. D'accord? Donc, il était devenu, lui qui était second, hein, il est devenu le premier, enfin celui qui était l'héritier de la famille. Je continue, c'est Ésaü qui porte plainte. Hein. Il avait déjà pris mon droit d'aînesse, et maintenant, il a pris ma bénédiction, parce qu'en deuxième coup, lorsqu'il passe devant le papa, Jacob, pose la main sur Jacob, lorsque Ésaü voulait quand même avoir ses bénédictions. Donc, quelque part, Jacob aussi, souverainement dirigé par Dieu, hein, mais il continue aussi, donc, à cause de cette chair qui est quand même déchu de lui, il continue quand même à supplanter. C'est pour ça qu'il avait le nom Jacob. Ça veut dire quelqu'un qui a lutté, hein? Quelqu'un qui supplante, quelqu'un qui a une caractère de duplicité totale. N'as-tu pas de bénédiction réservée pour moi? Dit Ésaü. Et Isaac répondit, c'est le verset 37, toujours. Voilà, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin nouveau, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Bon, il a quand même pleuré pour son fils Ésaü. Il y avait une compassion de la part du père. Mais à cause de tous ces dégâts familiaux, Jacob, finalement, après 20 ans, voulait à tout prix retrouver son frère. C'est beau, n'est-ce pas? D'avoir au moins le désir de retrouver quelqu'un avec qui on a vécu quand même une distance, un éloignement depuis un certain temps. Donc, il prépare une espèce d'avis, de fortune personnelle. Jacob remettait donc à son frère, ou voulait remettre à son frère, donc cette information en rapport avec tous ses biens. Et il envoie ses serviteurs à l'avance pour rencontrer Ésaü. Hein? Comme quoi, ton frère Jacob est devenu grand, il possède quand même beaucoup de biens maintenant. Et on a fait la liste là, dans ce passage. Et puis, ils reviennent, ses serviteurs reviennent donc à Jacob en lui disant que finalement, ça n'a pas tout impressionné Ésaü. Et nous lisons, moi j'ai le verset 8 ici, que Jacob a eu peur. Jacob eut peur de son frère. Et par réaction de peur, il divise son camp en deux. Pour que finalement, s'il faut sacrifier la moitié de ses biens avec ses serviteurs et ses femmes, donc tant pis, il était prêt à le faire tellement qu'il avait peur de son frère. Donc quelque part, parce que ça parle de peur et d'angoisse dans ce passage, on va retrouver quand même le texte, le verset, est-ce que c'est le verset 10? Bon, c'est pas grave. Oui, le verset 8. Jacob fut tout saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient à battre l'un des camps, le camp qui restera pourrait s'échapper. Il n'était pas dans des bonnes dispositions de cœur de vivre une réconciliation avec son frère. Il était toujours démangé par cette peur à l'intérieur de lui. C'était son premier problème à régler. Et au verset 10, nous voyons qu'il essaie quand même de faire une prière d'évacuation de peur. Quand quoi qu'il savait que le problème, ce n'était pas chez son frère, mais c'était chez lui, Jacob. Il dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, c'est le verset 10, « Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoigné à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne frappe ainsi que la mère et les enfants. » Donc, il a été terre à terre avec Dieu dans sa frayeur. Et c'est bien de pouvoir se découvrir devant Dieu. Et quelle que soit l'émotion que nous avons, de pouvoir crier, « Seigneur, au secours, je ne suis pas à la hauteur de la situation. » Et finalement, il revient à cette promesse qui lui a été faite à Bethel, de revenir sur les promesses, c'est tellement important, parce que les promesses mettent de côté la peur. Les promesses, c'est la parole de Dieu. La peur, la frayeur, c'est la mentalité de Ian Clifford, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous avons besoin d'écouter ce que Dieu nous a dit dans de telles situations. Donc, ce premier problème, c'était un problème de séparation avec son frère qui le pesait beaucoup. Mais il était en train quand même de trouver un chemin de solution. Mais le deuxième problème, c'était dans son caractère à lui. Parce que, comme j'ai dit, il a eu ce passé où il avait supplanté son frère. Il a volé la bénédiction. Et maintenant, il pense, puisque c'est un peu la coutume à l'époque, de mettre tout en place pour que son frère Ésaü l'accepte. Donc, il lui a proposé des présents, presque sans limite. Hein. Je ne sais pas combien de boucs et combien de chèvres, des centaines, hein, qu'il allait quand même donner ou proposer à son frère comme une espèce d'offrande de paix. Parce que finalement, si son frère acceptait cette offrande en amont, donc ça voulait dire qu'il allait accepter de rencontrer son frère Jacob. Donc il y avait tout un montage, je dirais, de type matérialiste pour convaincre l'autre qu'il devait le recevoir. Vous savez, souvent, je pense que nous nous appuyons sur des choses qui sont secondaires, qui sont même fausses, parce qu'il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune base solide dans tout ce qui est possession, dans tout ce qui est relation, pour que nous puissions retrouver une réconciliation. Une réconciliation avec notre frère, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de ce que nous sommes ou ce que nous avons entre les mains. Donc, voilà, il vivait une crise matérielle à fond parce qu'il pensait pouvoir convaincre son frère de se réconcilier avec lui à travers de telles finances. Et au début du passage que j'ai lu, nous retrouvons Jacob seul. C'est vrai? Seul avec lui-même. Hein, c'est à partir du verset 25. Jacob resta seul. Il n'a pas su vivre une très bonne communion avec ses femmes, ses deux femmes. 14 et 7 ans de mariage, respectivement. Il avait ses enfants avec lui. D'un seul coup, tellement était cette frayeur, je dirais aussi, combiné avec ce désir d'aller jusqu'au bout de sa réconciliation, mais il a laissé toute sa famille de l'autre côté de la rivière et puis il s'est retrouvé seul. Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu à sa rencontre. Attention, lorsque nous vivons des crises, que ce soit au niveau personnel ou familial, c'est des fois donc la Dieu qui s'arrange pour nous retrouver seuls avec lui. Parce qu'on a tellement l'habitude à se cacher derrière les circonstances ou derrière d'autres personnes. Parce que ici, Dieu cherchait Jacob. Il voulait passer la nuit avec lui. Il est venu en ange. En fait, dans un autre passage, nous disons que c'est un ange, l'ange de Dieu, qui est venu. Et il y a eu cette lutte acharnée entre Jacob et l'ange. Ils roulaient tous les deux dans la poussière, c'est marqué deux fois. Imaginez ça. Toute la nuit, dans la poussière, en train de se battre. Ça aurait pu passer à la télé, hein, sauf qu'il a fallu mettre quand même des lumières. Hein. Et puis finalement, nous lisons que l'ange de Dieu l'a frappé dans la hanche, là au niveau de l'articulation, où il y a le col de fémur. Et Jacob a terminé la nuit en boitant. Dieu voulait l'humilier et le rendre faible. Mais dans le contexte de cette lutte, Jacob a su continuer de se battre avec l'ange. Et finalement, il a dit, donc je pense que c'était le plus important, on va retrouver ce cri ardent qui sortait de son cœur. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Jacob avait compris qu'en se rendant à Dieu, en se laissant vaincre par Dieu, il allait quand même gagner. Vous me suivez? En se laissant vaincre par Dieu, dans une lutte où finalement tout son égoïsme, toute cette duplicité de caractère était quelque part remise en question, était quelque part mise en terre. En se laissant vaincre par Dieu, il allait en sortir quand même enrichi et béni. Amen. Dieu est en train de nous chercher. Il est en train de te chercher. Il n'est pas contre toutes sortes de, je dirais, de manifestations d'émotions, de cris, de ferveur, peut-être de pleurs de notre part, parce qu'il veut à tout prix nous avoir pour lui. Il veut que nous puissions rentrer dans une intimité, parce qu'il nous a créés pour lui-même. Il ne m'a même pas créé pour ma femme, si. Mais en fait, je suis plus important pour lui que ma femme ou mon mari, que tout mon entourage. Mais il connaît ma nature de rebelle, d'orgueilleuse, d'orgueilleux, de quelqu'un qui aime beaucoup quand même râler, qui aime beaucoup quand même renvoyer les autres. Il connaît tout cela. Mais malgré cette nature pourrie, il veut t'avoir pour lui-même. Et Dieu, je pense que même au niveau de notre petite communauté là, il nous fait revenir à une réalité où il veut nous dépouiller de tout pour que nous puissions repartir sur notre base de victoire. Sa victoire à lui, Jésus, qui a tout gagné et qui n'a aucun problème de renouveler tellement de victoires. Mais le problème, c'est que nous, on est toujours en train de lutter par nos propres forces, au lieu de céder, de nous laisser embrasser par ce grand lutteur qui est Dieu, le champion éternel, et qui est présent dans nos vies si on le laisse faire. Et je me souviens, je le disais à Elisabeth dans la voiture, là, j'ai dû prêcher là-dessus il y a des années, il y a peut-être une dizaine d'années, parce que je me souviens, je lisais un bouquin. Et l'auteur parlait de ce récit. Et j'ai dû faire une rendition à Dieu en lisant. Je me souviens, j'ai craqué ce jour-là. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que le fait que lorsqu'il est allé trouver son frère le lendemain, Jacob, Mais il n'était plus le même. Déjà, il avait un nouveau nom. Israël. Israël, le père des nations. Enfin, Israël, ça veut dire quelqu'un qui lutte avec Dieu. Hein? C'est un jeu de mots sur le mot Jacob, hein? Et sur tout ce qui s'est passé cette nuit. Et deuxième chose, pour revenir à ce que je disais, en allant voir son frère, ce n'était plus cet amas de bien qui allait convaincre son frère. C'était le fait pour moi qu'il boitait. Il venait de recevoir un chaos de la part de Dieu, et il avait changé de caractère. Il était maintenant humble et doux. Et Ésaü l'a accueilli. Ils se sont embrassés. Ils ont pleuré à deux. Pourquoi? Parce que Jacob a su se laisser vaincre par Dieu. Et je pense que toutes nos réconciliations, tout ce que nous avons à cœur à faire au niveau mission, évangélisation, ça se passera par cette défaite personnelle. Et nous acceptons de lutter avec Dieu, mais d'être vaincus. D'être vaincu. Nous sommes plus de vainqueurs, mais par le fait que Dieu a vaincu en Jésus-Christ. Ce n'est pas notre droit de victoire, c'est son droit exclusif à lui. Amen. Je pense que j'arrive à la fin. Juste un dernier point. Péniel. C'était la face de Dieu, le sens du lieu qui était donc nommé par Jacob, Peniel. C'était la face de Dieu. Lorsque nous avons rencontré Dieu face à face, je pense que nos frères de Jean et Ésaü, les gens autour de nous, vont voir aussi la face de Dieu à travers notre visage. C'est ça qui a convaincu Ésaü. Jacob avait rencontré Dieu face à face. Amen. La conclusion. Ton moment de plus grande peine, ton moment de plus grande défaite, du cri le plus agonisant, oui, peut-être la plus grande humiliation que tu as jamais vécue, ça peut devenir le point de départ pour vivre une autre dimension. Pour repartir avec une nouvelle connaissance de toutes tes faiblesses, mais pour retrouver la force de Dieu. 2 Corinthiens 12, vous connaissez. Hein? Lorsque l'apôtre Paul quand même a reçu cette écharpe dans la chair, Dieu a refusé de le guérir. Il lui disait, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes tellement animés et motivés, Seigneur, par notre nature de notre pécheresse, de rébellion, d'orgueil. Nous sommes un peu tous comme les Jacob, sur le plan humain. Mais Seigneur, ce matin, tu nous appelles à devenir des fils et des filles de Jacob, de savoir lutter avec toi, pour que nous soyons dépouillés de tout ce qui est de la chair, pour éventuellement être renouvelés dans ta victoire glorieuse. Merci Seigneur, tu nous propose une victoire dans nos vies personnelles, dans nos situations de tous les jours. Et Seigneur, je le proclame ce matin en ton nom sur tous mes frères et sœurs, une victoire entière cette semaine. Mais Seigneur, en déposant les armes et en repartant avec toi, merci de telle compassion. Merci Seigneur d'une telle grâce de ta part. Malgré toutes nos défaites, tu nous laisses repartir avec toi. Seigneur, la défaite, tu le transformes en glorieuse expérience où nous pouvons, Seigneur, approprier de nouveau tout ce que tu as pour nous. Et Seigneur, tout ce que tu as pour nous est basé sur ta victoire sur la croix de Golgotha. Nous nous réjouissons maintenant dans cette victoire. Au nom de Jésus. Amen.